La guerre devient une menace toujours grandissante, créant la possibilité d'une destruction totale de la race humaine. En continuant notre étude de la Bible et ses enseignements, nous trouvons le prophète Ésaïe annonçant un temps où les nations forgeront des hoyaux de leurs glaives et des serpes de leurs lances. Elles n'apprendront plus la guerre. Pouvons-nous nous attendre à l'accomplissement de ces prophéties ? Ces programmes vous sont offerts par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur des publications mensuelles Aurore.
Merci Thomas. Il est vrai, comme tu as dit, que le prophète Ésaïe prédit un temps où les nations n'apprendront plus la guerre. Mais pour apprécier la signification de telles prophéties, il est important de considérer que le livre d'Ésaïe n'est qu'une part de la parole de Dieu, et ses prophéties simplement une partie du témoignage prophétique relatif au plan entier de salut.
Parlons du plan de salut. C'est le livre de la Genèse qui relate le fait de la chute de l'homme dans le péché et la mort, conduisant à la nécessité d'un salut, n'est-ce pas Pierre ?
Oui Thomas, c'est cela. Et ce fait de base est reconnu par toutes les prophéties de la Bible. Dieu se servit du prophète Ésaïe pour lui faire écrire maintes promesses merveilleuses d'un temps futur de paix et de joie sur la terre. Et il révèle aussi que cet état de choses sera rendu possible parce qu'une provision fut faite pour racheter l'homme du péché et de sa pénalité, la mort. La mort de Jésus comme rédempteur de l'homme est le fondement du plan du salut. Thomas, dans le chapitre 53 d'Ésaïe, il y a une merveilleuse prophétie concernant la mort de Jésus. Voudrais-tu la lire ?
Avec plaisir, Pierre. Elle dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. » Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Pierre, je suis d'accord que ceci est une prophétie concernant les souffrances et la mort de Jésus, envoyé par le Créateur pour être le Sauveur du monde. Mais que signifie l'expression « que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains » ?
Thomas, ceci se réfère évidemment au dessein bienveillant de Dieu de sauver l'humanité du péché et de la mort par Jésus. Dans la Genèse, le premier livre de la Bible, le Créateur commence à révéler son aimable dessein.
Oui, je me souviens de la promesse que Dieu fit à Abraham que par sa semence, toutes les familles de la terre seront bénies.
C'est exact, et cette promesse a été répétée plusieurs fois. Mais pour que toutes les familles de la terre soient bénies, il est essentiel qu'elles soient ressuscitées. Ainsi, si tu te souviens, nous avons trouvé l'espérance de la résurrection clairement exposée dans les livres de Job et des psaumes.
Et maintenant, dans le livre d'Ésaïe, nous trouvons que c'est la mort de Jésus qui prépare le chemin pour la résurrection de tous les morts.
Oui. Et comme le déclare le prophète, cette œuvre de l'Éternel, cette aimable provision qu'il a plu au Créateur de faire pour toute l'humanité, prospérera vraiment dans la main de Jésus.
Pierre, je remarque également qu'il est dit dans cette prophétie que Jésus verra le travail de son âme et il rassasira ses regards. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Le mot « âme », comme partout dans la Bible, veut dire « être ». L'être entier de Jésus souffrit et mourut, et c'est cela que signifie le travail de son âme. Travail est synonyme de naissance. La prophétie prédit que Jésus n'aura pas d'enfant dans le sens habituel, mais comme résultat du travail de son âme, il verra sa postérité ou sa famille.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Simplement ceci, que par la mort de Jésus, une provision de vie a été faite pour toute l'humanité, et dans la résurrection, toutes les familles de la terre auront la vie par lui.
Ce n'est pas étonnant que le prophète déclare que Jésus rassasira ses regards en voyant le résultat de ses souffrances et de sa mort. Si les morts ne revenaient pas à la vie, les souffrances et la mort de Jésus auraient été vaines.
C'est bien vrai, Thomas, et c'est pourquoi, ainsi que le révèle Ésaïe, Jésus deviendra un grand roi et accomplira avec les représentants de son royaume les desseins aimables du Créateur de bénir toutes les familles de la terre. Ceci est mis en relief par la promesse de la naissance de Jésus que nous trouvons au chapitre 9 d'Ésaïe, au verset 5, si tu veux le lire, Thomas.
Mais certainement. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donnez à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Le gouvernement du royaume de l'Éternel, dans lequel le prince de la paix sera le gouverneur suprême, est annoncé dans le deuxième chapitre d'Ésaïe, au verset 2 et 4. Peut-être voudras-tu les lire également.
Avec plaisir. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Pierre, que veut dire la prophétie par l'expression « dans la suite des temps » ?
Elle se rapporte au dernier jour du règne du péché et de la mort.
La prophétie dit aussi « dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée ». Comment faut-il comprendre cela ?
Cette désignation, Thomas, est une bonne illustration du langage symbolique ou image de la Bible. En continuant notre étude de la Bible, nous trouverons que son langage est imagé, particulièrement dans les prophéties. La montagne de l'Éternel est son royaume. Ce langage était très compréhensible pour l'ancienne nation d'Israël, à laquelle ces prophéties furent adressées. Car Dieu gouvernait cette nation du haut du mont de Sion à Jérusalem. Le mont Sion, pour les anciens Israélites, était la montagne de l'Éternel. C'est par rapport à cela que le royaume de Christ est décrit comme la montagne de l'Éternel.
Pierre, la prophétie dit encore que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'est-ce que cela veut dire?
Elle dit également que la montagne s'élèvera par-dessus les collines. Tout comme la montagne de l'Éternel est le royaume de l'Éternel, les autres montagnes ou collines mentionnées sont les gouvernements du monde. Ainsi, la prophétie nous donne l'assurance que lorsque le royaume de l'Éternel sera entièrement établi, il occupera la position dominante sur toutes les nations de la terre.
Autrement dit, un gouvernement total sur le monde entier.
C'est cela même.
Cette prophétie démontre clairement que Jésus sera vraiment le prince de la paix, car elle nous assure que lorsque la montagne ou royaume de Christ sera établi, les nations transformeront leurs armées pour le bien commun, elles n'apprendront plus la guerre.
Et ce royaume, Thomas, fera plus pour le peuple que ne le fera une fin de guerre. Au chapitre 25 de la prophétie d'Ésaïe, nous trouvons une autre promesse merveilleuse concernant la montagne ou royaume de Christ, nous assurant que d'autres bénédictions seront encore données au peuple. Elle commence au verset 6, je crois.
Je vais la lire également, Pierre. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié.
C'était le verset 6. Et le verset 8 contient la promesse qu'il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages.
Et le 9e verset dit, en ce jour l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous a sauvés. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Cela me semble très clair, Pierre, que cette merveilleuse promesse n'est pas encore accomplie, puisque la mort n'est pas encore anéantie pour toujours.
Et le peuple de toutes les nations ne s'est pas encore joint, comme il est prédit, pour acclamer le Créateur comme le Dieu de leur salut. Non, Thomas, ces merveilleuses promesses de la Bible concernant le royaume de Christ ne sont pas encore accomplies. Non parce que le plan divin a échoué, mais parce que le temps convenable pour les peuples de la terre de recevoir les bénédictions préparées pour eux n'est pas encore arrivé.
Pierre, vers la fin de la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 65, pour être exact, il parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre que créera l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie?
Voilà encore un langage imagé. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont des illustrations du royaume de Christ. Nous trouvons l'usage de ce symbolisme à différentes reprises dans la Bible. Il suggère l'idée d'un contrôle divin dans les affaires des hommes. Tout comme le soleil, la lune et les étoiles exercent une influence sur la terre, ainsi le royaume de Christ en tant que gouvernement céleste, fonctionnant par ses représentants humains, exercera un contrôle sur l'humanité.
Je note, Pierre, que de merveilleux changements résulteront des arrangements du nouveau royaume. La prophétie dit « Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accompliront leurs jours. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. »
Tu vois donc, Thomas, que les promesses de Dieu auront effet sur les choses pratiques de la vie. L'expression « mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains » devrait être rendue « mes élus jouiront longtemps de l'œuvre de leurs mains ». Le mot « élu » cité ici concerne en principe Jésus, qui, en qualité de futur roi de la terre, pourvoira aux bénédictions promises par le Créateur. Il y a encore beaucoup d'autres promesses merveilleuses dans le livre d'Ésaïe. Mais maintenant, Thomas, voudrais-tu parler à nos auditeurs de l'article « L'assurance divine pour une survivance » ?
Merci, Pierre. Je suis étonné du nombre de promesses et de prophéties qui se trouvent dans un seul livre de la Bible. Prenons la résolution de devenir plus familier avec la Bible entière. Nous vous invitons de demander l'article « L'assurance divine pour une survivance ». C'est la deuxième partie de la série du livre des livres et elle vous sera envoyée gratuitement et franco sur simple demande. Voici quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans cet article. Qui était Job et pourquoi priait-il Dieu de le laisser aller en enfer? Les êtres humains verront-ils un jour Dieu? Où sont les morts? Verrons-nous un jour ceux que nous avons aimés? Comment savons-nous que les enfants morts seront redonnés à leurs parents? Comment savons-nous qu'il y aura un temps où il n'y aura plus de maladie ni de mort? Comment savons-nous qu'il n'y aura pas toujours des guerres pour flétrir le bonheur humain? Ce ne sont que quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans l'article « L'assurance divine pour une survivance ».
Demandez le petit livre « Survivance ». Demandez simplement « Survivance ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port.
Cette émission vous est offerte par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore en coopération avec les groupes locaux d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Dites-le à vos amis, voulez-vous, et que Dieu vous bénisse tous.